France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. L'Assemblée adopte le projet de loi créant un droit à l'aide à mourir. Les députés avaient au préalable écarté l'amendement qui élargissait le recours à un soignant. Nous ferons le point avec Valentin Gris dans un instant. Et nous verrons qu'en Italie, il n'existe pas de loi nationale sur l'aide à mourir. Ce sont les régions italiennes qui s'emparent de ce sujet douloureux. SEB supprime 2100 emplois, dont 500 en France. Le groupe historique d'électroménager promet de préserver les emplois industriels. Les syndicats demandent des garanties. Pierre-Yves Bournazel complique la bataille pour la mairie de Paris. Le candidat Horizon refuse de choisir au deuxième tour entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, alors que son patron Édouard Philippe penche, lui, plutôt à droite. Quand l'homophobie d'État s'installe au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko veut renforcer la répression des relations homosexuelles, qualifiées de relations contre nature. C'est la grande réforme sociétale du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, la création d'un droit à l'aide à mourir, adopté en première lecture à l'Assemblée, rejeté ensuite par le Sénat. Le projet de loi revient en deuxième lecture aujourd'hui au Palais Bourbon. Et à l'instant, les députés ont donc adopté le texte après avoir rejeté des amendements qui faisaient polémique. Valentin Gris, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
L'Assemblée a notamment écarté l'amendement qui facilitait le recours à un soignant pour l'aide à mourir.
Oui, les députés avaient remis au vote ce point après l'adoption à une voix près seulement d'un amendement permettant à un malade de choisir entre l'auto-injection et le recours à un soignant, et une majorité plus claire a renversé cet amendement cet après-midi. Le texte adopté rappelle qu'un malade ne pourra faire appel à un soignant que s'il n'est pas physiquement en mesure de procéder lui-même à l'injection. De quoi vérifier la volonté libre et éclairée du malade et rétablir l'équilibre du texte, a par exemple expliqué la députée centriste Agnès Firmin-Lebaudeau. L'autre mesure remise au vote a elle aussi été renversée. L'Assemblée a adopté un amendement précisant que la souffrance psychologique seule ne suffisait pas à obtenir l'aide. Un cliquet utile pour éviter des dérives, selon le député communiste Stéphane Peu. Ces deux points éclaircis, une majorité s'est dégagée, 299 voix pour, 226 voix contre. Un résultat moins net qu'en première lecture, mais 10 ans après la loi Claeys-Leonetti qui entérinait le soulagement de la douleur en autorisant la sédation profonde et continue jusqu'au décès, l'Assemblée nationale porte un nouveau texte décisif sur la fin de vie. Outre les points évoqués, il fixe les critères pour obtenir l'aide, notamment 3. La souffrance physique, réfractaire au traitement ou insupportable, une affection grave, incurable et qui engage le pronostic vital, et la capacité à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Il fixe un délit d'entrave pour les soignants dissuadant les malades ou les empêchant de s'informer sur l'aide, et au même titre un délit d'incitation en cas de pression sur le malade pour recourir à l'aide. Le texte va désormais filer au Sénat qui l'avait rejeté en première lecture. Il est donc probable qu'il revienne à l'Assemblée pour une troisième étude. Un autre texte en parallèle a été voté à l'unanimité cet après-midi. Il doit permettre le développement des soins palliatifs.
Valentin Gris, merci. En Italie aussi, l'aide à mourir fait débat. Chez nos voisins, la légalisation du suicide assisté et non pas de l'euthanasie est passée par une voie détournée, une décision de la Cour constitutionnelle. Mais faute de loi nationale en bonne et due forme, le pays est dans un entre-deux juridique, source d'inégalités et de contentieux. Alors dans cette nation décentralisée qu'est l'Italie, certaines régions s'emparent du sujet, comme nous l'explique à Rome Bruno Duvic.
2019, saisie du cas du militant Marco Cappato qui a accompagné un malade en Suisse, la Cour constitutionnelle italienne ne le condamne pas et détaille une série de conditions pour accéder au suicide assisté. Maintien en vie à l'aide de dispositifs médicaux, souffrance intolérable, pas d'espoir de guérison, pleine conscience du malade. 7 ans plus tard, il reste un flou juridique. Qui assiste le patient? Dans quel délai? Qui prend en charge le coût du produit? Selon l'endroit où l'on habite, le droit n'est pas appliqué de la même manière. Alors le débat se prolonge dans les régions, au large pouvoir en matière de santé. Filomena Gallo, la juriste de l'association de Marco Cappato.
Les régions ont une autonomie. Elles peuvent légiférer dans ce domaine. Dire qui fait quoi.
La Toscane et la Sardaigne ont voté une loi pour garantir ce droit. En Lombardie, cela s'est joué à quelques voix. Le Piémont se contente d'une circulaire. La Cour constitutionnelle n'a validé que partiellement la loi Toscane. Le gouvernement conteste celle de Sardaigne. Bref, le flou juridique demeure, mais Giorgia Meloni ne veut pas de loi nationale.
J'estime que le rôle des institutions n'est pas de favoriser des démarches de suicide.
La première ministre insiste sur les soins palliatifs. Dans l'état du droit transalpin, une loi permettrait pourtant de clarifier les choses.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie. Dans l'actualité économique, les partenaires sociaux face à un nouveau dilemme sur l'assurance chômage. Soit les syndicats et les organisations patronales trouvent un accord d'ici demain matin, soit le gouvernement reprend la main après cette dernière journée de négociation aujourd'hui. Le patronat juge le régime actuel trop généreux, alors que les syndicats fustigent un système trop dur et trop restrictif pour les demandeurs d'emploi. Bonsoir Wafia Kenich.
Bonsoir Stanislas.
Alors quels sont les principaux points de divergence qui empêchent pour le moment de parvenir à un accord?
Alors, au cœur des enjeux, d'abord, les ruptures conventionnelles, et c'est principalement sur ce dispositif que les partenaires sociaux doivent réaliser des économies au moins 400 millions d'euros. Le gouvernement estime que ces fins de contrat à l'amiable, sont trop coûteuses. On s'oriente manifestement vers des conditions d'indemnisation moins favorables pour ces salariés qui partent avec des ruptures conventionnelles et qui perçoivent des indemnités au même titre que les demandeurs d'emploi. Plus de 500 000 accords de ce type ont été conclus l'an dernier. Les allocations chômage atteignent désormais 9,4 milliards d'euros, évidemment un coût pour l'UNEDIC. D'après l'instance gestionnaire de l'assurance chômage, ceux qui partent avec ces accords sont plus jeunes, plus diplômés que les autres chômeurs et perçoivent par ailleurs une indemnité plus longtemps que la moyenne des demandeurs d'emploi. Alors pour la CGT, les employeurs sont responsables de ces abus. Le syndicat, dirigé par Sophie Binet, propose un malus pour les entreprises qui abusent du dispositif. Les organisations patronales ont-elles proposé de réduire de 18 à 15 mois la durée d'indemnisation maximale pour les chômeurs de moins de 55 ans ayant signé des ruptures conventionnelles, avec par ailleurs des indemnisations diminuées de 30% après 6 mois. Le syndicat majoritaire, la CFDT, évoque une dégressivité si et seulement si le demandeur d'emploi ne met pas en œuvre un vrai projet professionnel avec l'aide de France Travail, quand la CFE-CGC assure de son côté que la dégressivité ne sert à rien. Bref, les organisations patronales et syndicales sont en ce moment même réunies. On attend une décision d'ici la fin de la soirée.
Un décryptage signé Wafia Kenich. Après la liquidation de Brandt, c'est un nouveau coup dur pour ce qu'il reste de l'électroménager français. Le groupe SEB va supprimer jusqu'à 2100 emplois, dont 500 en France. Outre la marque SEB, le groupe comprend Moulinex, Tefal ou Roventa. Ses dirigeants présentent ce plan comme le seul moyen de renouer avec la croissance dans un marché de plus en plus concurrentiel, notamment avec les produits fabriqués en Asie. Bonsoir Héloïse Weiss.
Bonsoir.
La direction de SEB affirme que ces départs se feront tous sur la base du volontariat et ils ne concerneraient pas le secteur de la production.
Oui, seule l'activité tertiaire est visée, comme la finance, les ressources humaines, la logistique, le marketing ou encore le développement produit. Au total, 7 sites sont concernés, comme ceux de Pont-Évêque, de Rumilly ou encore de Mayenne. Ouria Belaziz est coordinatrice CGT pour le groupe SEB.
Nous, on est à Calor, hein, dans l'Isère, à Pont-Évêque. Je peux vous dire que ça a été un choc pour les salariés qui ont appris à 8 heures que leur fonction, leur emploi était menacé. Parce qu'on dit les termes comme on veut, des départs volontaires et tout ça. Pour nous, c'est de la suppression d'emplois.
La syndicaliste croit difficilement à un départ de 500 volontaires du groupe, d'autant que l'intelligence artificielle jouera un rôle dans ces rationalisations, précisait ce matin le directeur général du groupe. Arnaud Le Sueur est secrétaire du comité central de la SAS SEB pour l'UNSA. S'il est conscient de la réalité économique du groupe, lui est sceptique quant à l'usage de l'IA.
L'IA ne fait pas tout. Et c'est là où on sera vigilant, parce que supprimer des postes et dire on remplace sur l'IA sur le papier, c'est un peu facile. Maintenant, concrètement, comment on fait, c'est une autre histoire. Donc ça, on attend de voir et notre point de vigilance, il sera dessus, parce que nous, notre priorité, ça sera quand même les conditions de travail pour les gens qui restent.
Ces 500 départs volontaires pourraient prendre la forme de congés de fin de carrière, de retraite anticipée ou de rupture conventionnelle collective. Il en sera question mardi prochain lors de négociations entre la direction de SEB et les partenaires sociaux.
Explication signée Héloïse Weiss. Pierre-Yves Bournazel sera-t-il le faiseur de roi de l'élection municipale à Paris? Il est pour l'instant le troisième homme du scrutin, avec 12% des voix dans le dernier sondage IFOP. Mais le candidat Horizon a annoncé ce matin qu'il ne rejoindrait aucun des des deux favoris au second tour, ni le candidat de la gauche ORLFI Emmanuel Grégoire, ni son adversaire de droite Rachida Dati. Et si Pierre-Yves Bournazel décide de se maintenir le 22 mars, les ambitions municipales de la ministre de la Culture pourraient être contrariées. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
À ce stade, Pierre-Yves Bournazel refuse l'union avec la droite au risque de froisser son propre camp.
Oui, car voilà plusieurs jours qu'en coulisses son parti Horizon travaille au rapprochement des deux listes. Pas le choix pour les philippistes au vu des derniers sondages qui montrent un léger décrochage de leur candidat bien loin derrière Rachida Dati. Peu importe les enquêtes d'opinion pour le candidat macroniste, il est d'après lui le seul à offrir un autre chemin aux Parisiens et l'alliance avec sa meilleure ennemie, comme il l'a décrit, il ne veut pas en entendre parler. Mais encore faudrait-il qu'il ait les mains libres et c'est ce qu'est venu lui rappeler le patron d'Horizon, Édouard Philippe, qui s'est permis cet après-midi de recadrer son candidat, partisan d'un grand rassemblement de la droite et du centre au second tour. « Je ferai tout entre les deux tours pour l'alternance à Paris », a déclaré l'ancien Premier ministre, tout en refusant de se formaliser sur les déclarations d'avant-match. Rien n'est figé selon lui, ni ce que fera son candidat, ni la liste définitive de Rachida Dati. Un moyen de rassurer les électeurs, estime Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP.
Compte tenu de l'éclatement du jeu politique, ce qui était le modèle de second tour, à savoir le duel, va devenir sans doute l'exception. Pierre-Yves Bournazel a tout intérêt de mettre le paquet, si je puis dire, sur la campagne de premier tour, mais les électeurs n'apprécient pas qu'on se projette sur un second tour alors que nous sommes à plus de 15 jours du premier tour.
Une montée au créneau d'Édouard Philippe qui prouve une nouvelle fois la nationalisation du scrutin parisien à un an de l'élection présidentielle à laquelle, on le rappelle, le patron d'Horizon est officiellement candidat.
Jeanne Serrin, merci. Toujours au chapitre des municipales, la question du Rassemblement national sème le trouble au sein du gouvernement. Dimanche, Aurore Berger, la ministre à l'égalité femmes-hommes, avait demandé au RN de se désister dans les villes où la France Insoumise est en mesure de gagner. Recadrage aujourd'hui de la porte-parole du gouvernement. « Nous ne demandons rien au Rassemblement national », a dit Maud de Brejon sur France Info. « De même que nous n'appelons la France insoumise à rien », a-t-elle ajouté. Le parquet de Paris ouvre une enquête sur la jeune garde pour, je cite, « participation au maintien ou à la reconstitution d'un mouvement dissous ». Le groupe dont plusieurs membres présumés ont été mis en examen pour la mort du militant identitaire Quentin Derancq à Lyon. La décision de saisir la justice avait été prise hier à l'Élysée lors d'une réunion consacrée au groupe d'action violente. En lien avec des partis politiques, le Conseil des ministres avait dissous la jeune garde en juin dernier. Il ne fait pas bon être homosexuel au Sénégal. Une vague d'homophobie secoue le pays depuis plusieurs semaines. Jusqu'au sommet de l'État, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé hier un projet de loi visant à durcir les peines réprimant les relations entre personnes du même sexe. Elles risqueront jusqu'à 10 ans de prison contre 1 à 5 ans aujourd'hui. Le code pénal sénégalais définira désormais l'homosexualité comme un acte contre nature. Mais sans attendre l'adoption de cette loi, les arrestations de personnes présumées homosexuelles se multiplient au Sénégal. Juliette Dubois nous appelle de Dakar.
Au Sénégal, on les appelle les Gordjigen, les hommes-femmes en Wolof. Les personnes LGBT sont stigmatisées de longue date, accusées, je cite, d'actes contre nature. La presse locale recense une trentaine d'arrestations pour homosexualité présumée depuis début février. Mais ce nouveau projet de loi va plus loin encore. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé mardi devant les parlementaires.
Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs. Mais le juge ne pourra prononcer le sursis ni réduire l'emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l'alinéa 1 du présent article.
10 ans d'emprisonnement, dans ce texte, l'homosexualité est classée dans la même catégorie que la zoophilie, la nécrophilie et la pédophilie. Des peines sont également prévues pour l'apologie de la philosophie LGBT, je cite. Depuis plusieurs mois, des homosexuels fuient le pays. Ce Sénégalais réfugié en France suit l'évolution de la situation avec inquiétude.
J'ai eu plusieurs problèmes au Sénégal à cause de mon orientation sexuelle. Je me suis fait agresser plusieurs fois, j'ai fait de la prison. Ça me révolte, ça m'énerve et ça me rend très triste de savoir qu'il y aura beaucoup d'autres vies qui vont basculer. Ces personnes sont des personnes honnêtes, ils ne font rien de mal.
Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale et devrait être soumis au vote dans les prochaines semaines.
Juliette Dubois, correspondante au Sénégal, l'ONG Human Rights Watch dénonce ces arrestations de personnes présumées homosexuelles. Elle réclame au gouvernement sénégalais leur libération. En République démocratique du Congo, les forces de Kinshasa mènent en ce moment des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 pro-rwandais dans l'est du pays, avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. La cité minière de Rubaya, située dans la province troublée du Nord Kivu, produit entre 15 et 30% du coltan mondial, minerai stratégique pour l'industrie électronique. Depuis 2021, le M23 s'est emparé, avec le soutien du Rwanda, de vastes pans de territoire dans l'est de la RDC. L'est de la RDC, riche en ressources, est ravagé depuis 30 ans par des conflits armés. Aux États-Unis, le torchon brûle entre l'administration Trump et l'un des fleurons américains de l'intelligence artificielle. Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a adressé hier soir un véritable ultimatum à la start-up Anthropic. Il exige que l'entreprise lève toutes les restrictions à l'utilisation de son IA par le Pentagone. On retrouve à Atlanta Laurent Kramer. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Laurent, la start-up Anthropic défend un modèle éthique de l'intelligence artificielle, d'où ces restrictions qui mettent en colère Pete Hegseth.
Oui, Anthropic et son modèle Claude est aujourd'hui la seule intelligence artificielle utilisée donc par le Pentagone qui impose ainsi des limites éthiques extrêmement strictes avec des barrières implantées directement au sein même de son code de programmation, ce qui empêche aujourd'hui toute utilisation, donc hors cadre. Claude est utilisé par le Pentagone comme outil sécurisé, confidentiel défense, mais aujourd'hui uniquement en termes d'analyse, pour faire des synthèses, par exemple, de plusieurs centaines de rapports de renseignement, ou encore une analyse opérationnelle, comme ce fut le cas au Venezuela, où le Pentagone a utilisé Claude pour traduire simultanément des milliers de messages, analyser des milliers d'images satellites en temps réel. Avantage décisif, semble-t-il, lors de l'enlèvement du président Maduro. L'enjeu de cet ultimatum du Pentagone est d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir utiliser toute la puissance de cette intelligence artificielle. Le Pentagone souhaite par exemple passer de la simple analyse à la coordination, cette fois de bombardements, de frappes par drone ou de cibles précises d'individus à suivre par satellite, puis à éliminer. Le Pentagone souhaite surtout que les limitations de Claude soient désactivées pour l'utiliser en outil de surveillance, capable là aussi de synthétiser des milliers d'informations, de fusionner instantanément en temps réel, ce qui est nouveau, des flux de reconnaissance faciale, des caméras urbaines, des données GPS, des téléphones, tous les filtres d'analyse, de contenu sur les réseaux sociaux, une IA en quelque sorte capable de mesurer les signaux faibles et toutes les interactions, ce qui le transformerait de facto en un outil de surveillance massive aux États-Unis. Des barrières qu'Anthropic ne souhaite pas faire sauter, mais que le patron de la défense, Pete Hegseth, estime qu'à l'heure de la désinformation et des cyberattaques sur le sol américain, distinguer ainsi les menaces extérieures des menaces intérieures n'est plus un débat aujourd'hui d'actualité.
Laurent Kramer en direct d'Atlanta, merci. Une question pour finir ce journal, faut-il poser des limites à la dark romance apparue dans les années 2010, ce sous-genre littéraire met en scène des relations impossibles qui reposent souvent sur des violences sexuelles ou psychologiques. Le géant Amazon a retiré hier de la vente un livre de dark romance accusé de faire l'apologie de la pédocriminalité, livre signalé à la justice après une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. Son titre Corps à cœur, publié en auto-édition en 2024 par l'autrice française Jessie Oriane. Avant son retrait, cet ouvrage pointait au 11e rang des livres les plus vendus, tous genres confondus sur la plateforme. Bonsoir Chloé Geffroy.
Bonsoir.
Corps à cœur choque même les lecteurs habitués à la dark romance.
Saulé sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, où la dark romance cartonne, certains internautes de la communauté BookTok, c'est-à-dire les gens qui partagent leur lecture sur cette application, parle d'un livre dangereux et pointe du doigt des passages banalisant le viol de nourrissons. Pour Sarah El-Haïry, la haute commissaire à l'enfance qui a saisi la justice, on ne peut pas tout écrire au nom de la dark romance.
Je le disais tout à l'heure, la dark romance, un genre littéraire qui met en scène des histoires d'amour torturées.
Avec des relations qui explorent la dynamique de domination, de pouvoir et de soumission. Un thriller érotique teinté d'horreur, c'est ce que revendique l'autrice mise en cause. Sur son compte Instagram, Jessie Oriane défend la liberté liberté d'expression, dénonce une campagne de dénigrement et assure que son roman comporte des avertissements clairs dès les premières pages, le fameux trigger warning. Enfin, il est aussi question de la responsabilité d'Amazon dans cette affaire sur la plateforme. Le livre est affiché comme réservé à un public averti et majeur, mais l'association Face à l'inceste s'étonne qu'aucun dispositif de vérification d'âge ne soit prévu au moment de passer commande.
Chloé Geffroy, merci. Un mot du temps demain. La douceur hors norme persiste. La journée débutera sous la grisaille au sud, mais le soleil finira par s'imposer. Au nord, un ciel souvent voilé avec des pluies en soirée sur la Bretagne. Les températures minimales iront de 2 à 10 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 13 et 20 degrés, jusqu'à 25 degrés sur l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck, à la technique Marie-Claire Oumabadi.